Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Voilà, c'est parti pour le magazine au Capi Service. Comme je l'ai dit en sommaire, on va parler de la destruction des sites de reproduction aquatique. Quelles sont les conséquences? En RDC, de plus en plus de niches écologiques de plusieurs cours d'eau sont détruites. Ces endroits qui sont des lits de rivière sont également des lieux de reproduction des poissons et autres espèces aquatiques. D'après les experts, détruire ces niches, se mettre fin au cycle de reproduction de toutes les espèces qui vivent dans l'eau. Donc avec notre invité Freddy Mumba, qui est chef de projet pilote de congestion et conservation des ressources halieutiques du lac Maïndombé. On va essayer de comprendre tout cela. Donc, pourquoi faut-il protéger ce site et quelles sont les conséquences lorsque ce site ne s'est pas protégé? Alors, Freddy, essaie un peu de nous éclaircir. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par site de reproduction aquatique?
Merci beaucoup pour la question. En fait, je vais commencer d'abord par un correctif. Je suis ingénieur agronome, donc je suis chargé des questions de forêt et de l'agriculture au CNADEP, qui est le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, une ONG nationale. Et je suis le responsable du suivi et de l'évaluation du projet de cogestion et de conservation de ressources halieutiques qui est donc basé à Inongo dans le Maïndombé. Donc pour revenir à votre question, c'est que tout est parti d'abord d'un constat. Nous avons tous ensemble constaté, ensemble avec tous les différents acteurs, les différentes parties prenantes, donc y compris les pêcheurs eux-mêmes, qui sont arrivés à tirer des conclusions qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est en train de se passer dans les plans d'eau. Et parlant ici spécifiquement du lac Maïndombé, c'est que les pêcheurs, quand ils essaient un peu de remonter les profils du passé, ils arrivent à dire que autrefois, quand on allait pêcher, on avait un très petit nombre de filets, mais on revenait avec beaucoup de poids. Mais contrairement aujourd'hui, on a augmenté le nombre de filets, mais quand on va dans la pratique de la pêche, on se rend compte que on capte très peu de poissons. Alors, on se pose la question, cela est dû à quoi? Et on a fait ensemble des analyses avec les pêcheurs et tout le monde est arrivé à comprendre que c'est suite à des mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques, donc entre autres, il y a les mauvais filets qui sont utilisés, donc les filets même qui sont prohibés par la loi et qui sont utilisés. Et une des causes aussi principales, c'est que les pêcheurs vont jusque dans les zones d'effrayeur, ce que vous appelez les sites de reproduction, dans les zones d'effrayeur où le poisson se reproduit. Et alors là, ils détruisent. Donc ils vont, ils prennent les alevins, ils prennent, et même donc les poissons qui sont en stade de reproduction, ils les prennent. Et alors là, la conséquence, c'est que ça se répercute maintenant. Après, ils n'attrapent plus.
Mais comment ces pêcheurs arrivent à aller jusqu'à ces zones de frais? Ils savent pas que c'est des zones de sites de reproduction des poissons, ou bien bon, ils y vont parce qu'ils sont à tout près à la recherche des poissons.
Ils le connaissent bien, ils connaissent bien que ce sont des sites où les poissons se reproduisent, puisqu'ils savent bien, les pêcheurs, donc, comme vous allez vous rendre compte, donc, ils connaissent toutes ces choses-là, ils savent les zones où les poissons se reproduisent, puisque, comme vous le savez, donc, les poissons ont des substrats sur lesquels ils se reproduisent. Il y en a qui se reproduisent, donc, sur l'herbe, dans l'herbe, il y en a qui se reproduisent sur le sable, il y en a qui se reproduisent, donc, sur les pierres. Donc, et les pêcheurs savent bien, puisque, maintenant, le travail que nous sommes en train de faire avec eux, c'est identifier toutes ces zones et voir, maintenant, dans quelle mesure on peut protéger ces zones-là pour que finalement ils ne puissent pas accéder à cela. Donc ils connaissent bien cela, mais malgré ça, ils y vont. C'est là que nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait d'abord une prise de conscience de la part des pêcheurs eux-mêmes, qu'ils puissent comprendre que c'est une mauvaise pratique qui est en train de condamner donc les générations futures. Et une fois qu'ils ont compris, alors nous allons mettre en place certaines mesures pour protéger ces zones-là. Et l'une des mesures, nous voulons que ça vienne d'eux-mêmes. Donc c'est comme ça que nous sommes en train de travailler sur une charte qu'eux-mêmes peuvent produire. Une charte, une sorte de réglementation qu'eux-mêmes peuvent suivre. Donc ils se donnent une certaine discipline pour ne pas aller déranger ces zones-là. Et alors, et à côté de cela, cela ne suffira pas. Donc, il faudrait aussi que le gouvernement puisse aussi donc appuyer cela par une réglementation aussi. Donc, jusqu'à aujourd'hui, donc, on est en train de, il y a la loi, le projet de la loi sur la pêche, mais qui jusque-là est en train de traîner dans les tiroirs quelque part. Et nous voulons travailler aussi là-dessus pour qu'on puisse finalement réveiller donc ces projets de loi et qui soient pris.
Et que quand vous dites qu'il faut protéger ces sites de reproduction, vous allez les protéger comment? Qu'est-ce que vous allez mettre de, je sais pas moi, de panneaux pour signaler que c'est des sites où absolument il faut pas pêcher pour donner l'occasion aux poissons de se reproduire. Comment vous allez les protéger concrètement?
Et dans un premier temps, ce que nous voulons voir, c'est d'abord la prise de conscience des pêcheurs eux-mêmes. Et on va faire une cartographie, une cartographie de toutes ces zones de frayeur. Donc on va produire ça. Ça, je parle du cas de Maïndombé. Et une fois qu'on a dressé la cartographie de ces zones-là, et alors on peut, à partir donc de la charte, de la réglementation que les pêcheurs eux-mêmes vont établir, essayer de surveiller ces zones-là. Donc ça, c'est d'abord de leur côté, à partir d'eux-mêmes, qu'ils essaient de surveiller ces zones-là. Mais nous avons aussi prévu dans le projet que nous puissions aussi encourager la mise en place de ce que nous appelons les frayeurs artificiels. Et dans la zone, on a tenté ça, donc au niveau du lac Ntumba, on a tenté avec l'expérience de ce que nous appelons les bienzos. Les bienzos, en fait, ça consiste tout simplement donc à mettre dans les zones de frayeurs, on arrive à mettre des obstacles, on construit des obstacles dans ces zones-là.
Et qui ne permettent pas aux pêcheurs d'accéder à ces endroits.
Voilà, qui ne permettent pas aux pêcheurs d'accéder à ces endroits-là. Donc c'est un peu ça, donc d'abord au niveau de la conscience des pêcheurs eux-mêmes, et puis la réglementation à partir de la charte eux-mêmes, et puis la réglementation aussi au niveau du gouvernement, ça nous insistons beaucoup, puisque les pêcheurs peuvent bien prendre conscience, mais ce n'est pas tout, ça sera un noyau avec lequel nous sommes en train de travailler. Mais il faudrait que maintenant l'État aussi puisse appuyer cela avec une réglementation et avec un contrôle aussi solide et sévère. Voilà.
Alors pour ce qui est des conséquences, vous avez évoqué en début de l'émission que les pêcheurs eux-mêmes avaient constaté qu'il y avait déjà une baisse de la production, donc c'est une des conséquences. Oui. Ça peut être la baisse de la production des poissons, mais quelles sont les autres conséquences?
Les autres conséquences, c'est que ces zones aussi, c'est l'écosystème, hein. Oui. C'est l'écosystème. Donc quand on parle d'un écosystème, donc c'est l'ensemble d'éléments qui sont que cela compose. Donc il n'y a pas que le poisson, il y a aussi les autres. Donc il y a de la chaîne, hein. Donc on parle de la chaîne trophique, tout ça. Donc en dehors de ça, on détruit toute cette zone-là. On détruit la zone. Bon, je sais pas. Il y a des projets aussi qui sont conçus ou qui sont construits même dans notre pays ici et qui sont au bord des rivières. Et ces projets-là aussi, moi je pense que chaque fois qu'on est en train de vouloir mettre en place des projets comme ça, je pense qu'il faut faire bien des études d'impact environnemental pour qu'on puisse se rendre compte de la conséquence que cela ça peut avoir sur l'environnement. Donc ça ne va pas seulement détruire la ressource, mais au fait ça dérange tout l'environnement et comme on dit c'est un écosystème donc qui est bousculé, qui est dérangé.
Mais vous avez dit il y a également certaines pratiques utilisées par les pêcheurs qui ne sont pas encouragées. Vous avez parlé par exemple de l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides pour la pêche. Mais qu'est-ce qui fait que le pêcheur utilise ces moustiquaires? Parce qu'ils n'ont pas les filets à les emporter ou quoi?
Le filet sur le marché il y en a, le filet réglementaire sur le marché il y en a. Mais comme on a dit, ils se rendent compte qu'avec ces filets normaux, ils n'arrivent pas à attraper grande chose. Alors maintenant, donc devant la survie, ils sont obligés d'aller utiliser maintenant tous ces filets qui sont des moustiquaires pour attraper les tout petits poissons là. Donc ils attrapent les alevins. Et ils attrapent aussi même les grands poissons qui sont à l'âge de la reproduction, donc qui sont dans les zones de frayeur en train de se reproduire. Alors, ils vont les attraper aussi avec le filet, puisque là, on est sûr qu'il n'y a aucun qui va s'échapper. Et c'est ce qui se passe. Donc, il y a le filet, mais s'ils utilisent le filet normaux, ils ne vont rien presque attraper. Alors, il faudrait qu'ils puissent attraper les filets à très petites mailles. Voilà.
Voilà. On va poursuivre avec vous, Freddy Mumba. Vous avez dit que vous êtes ingénieur agronome et chargé des questions des forêts au Senadep, c'est ça?
Oui.
Voilà. Donc vous êtes intéressé par rapport à ces sujets, hein. Vous voulez poser des questions, vous voulez, en tout cas, vous êtes pêcheur, hein, ou peut-être vous vivez dans un milieu où les gens s'intéressent à la pêche. Profitez-en pour poser des questions, pour en savoir davantage avec notre invité Freddy Mumba. Appelez au 081 890 63 94.
Capidance du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Capidance New Wave, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais d'ici et d'ailleurs.
Voilà, nous avons déjà un premier auditeur en ligne, il s'agit de Benoît Kabasele qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour, c'est des journalistes.
On vous écoute Benoît.
Oui, j'avais juste deux petites questions à poser à notre invité.
Oui.
La première, c'est de savoir, par rapport aux mesures, je voulais lui demander quelles sont les mesures que notre gouvernement a prises pour décourager tous ces pêcheurs qui vont jusqu'à aller attraper les poissons se trouvant dans les zones interdites ou bien dans la zone de reproduction.
Oui,
la deuxième question.
Oui.
Il y a combien de sortes ou catégories de filets autorisées par notre gouvernement pour ces pêcheurs puissent utiliser selon les normes réglementées par le gouvernement?
Voilà, merci Benoît Kabasele d'avoir appelé les Kinshasa à Bandundouville. Nous avons Jérémy dans ligne. Bonjour Jéry.
Oui, bonjour Max.
On vous écoute Jéry.
Bon, j'ai des questions à poser à l'invité, je ne sais pas. Nous ici à Bandundu, le système où il est en train de parler, ça s'est fait vraiment de temps en temps ici. Bon, ce que je peux dire ici, il y a beaucoup de sortes de pêches. Donc, beaucoup de sortes de filets. Vous allez voir, il y a des filets qu'on appelle les sambouissa, il y a d'autres filets qu'on appelle si c'est qui que soit. Je ne sais pas, comme a dit le premier auditeur, quelles sont les mesures où on peut faire? Parce que même si le gouvernement prend des mesures, nous ici dans les provinces, nous ne voyons pas toutes ces mesures. Nous ne voyons pas donc, on peut dire quoi, les policiers de chasse pour aller surveiller tous ces pêcheurs. Donc, dans les provinces, qu'est-ce que le gouvernement peut nous aider par rapport à ça? Parce que ce que je constate, les poissons vivent très loin avec les hommes. Ce que le gouvernement peut faire pour nous qui sommes en province, et quelles sont les mesures qu'il peut prendre? C'est ça ma préoccupation.
Merci Jérémy Do d'avoir appelé de Bandundouville dans la province de Bandundu. Voilà, Freddy Mumba, vous avez suivi Benoît Kabasele qui nous a appelé de Kinshasa et également Jéry Mido qui est à Bandundouville. Alors Benoît a cherché à savoir par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour ce qui est de la réglementation de la pêche, qu'est-ce qui est exactement pris comme mesure. Et puis vous avez peut-être aussi évoqué déjà comment faire de manière à ce que cela puisse être appliqué.
Ok, donc je remercie beaucoup vraiment tous les auditeurs qui sont en train de suivre et pour les questions qui viennent de nous poser. Et concernant les mesures, justement, c'est sur cela que nous sommes en train de travailler. Donc jusque-là, nous sommes en train de fonctionner avec une très ancienne loi, une loi d'ailleurs qui est devenue presque obsolète et qu'il faut adapter. Il y a eu un projet de loi sur la pêche donc qui a été proposé, mais qui jusqu'à aujourd'hui souffre dans des tiroirs. Et nous voulons, à travers ce projet ici, essayer un peu de pousser pour que finalement cette loi soit prise au niveau du pays. En fait, c'est ça la mesure que le gouvernement peut prendre pour décourager les mauvaises pratiques. Et parce que dans cette loi, on va tout prévoir, tous les mécanismes, même des protections, des surveillances, tout ça. Donc, il y a des corps de surveillance qui seront mis en place. Donc, c'est sur cela que nous allons essayer de travailler. C'est comme ça que nous essayons de tout faire aussi pour impliquer dans ce projet les députés, pour que déjà qu'ils commencent déjà à être sensibilisés. Parce que lorsque nous allons commencer ce travail sur la loi, que cela puisse aller vite. Et c'est la même question avec notre ami du Bandundu, qui parle aussi des mesures. Donc justement aussi, donc je suis content aussi que ce soit quelqu'un du Bandundu qui pose cette question, puisque nous sommes en train de travailler sur le lac Maïndombe, c'est dans les Bandundu, et là aussi nous sommes en train de travailler au niveau de la province. Donc nous travaillons à deux niveaux, au niveau de la province, au niveau national. Et au niveau de la province, nous avons essayé avec différents partenaires, je vais citer ici APF, nous avons essayé de travailler sur ce que nous appelons un vademécum, au fait que nous allons proposer au niveau de la province pour que cela soit pris comme inédit. Au fait, c'est comme comme une loi au niveau de la province et qui va permettre de conserver, de protéger les ressources halieutiques au niveau de la province du Bandundu. Et ici aussi, donc, nous en appelons aux autorités de la province du Bandundu, puisque c'est déjà un plaidoyer que nous sommes en train de commencer et que nous voulons déjà commencer ce travail, déjà, si les autorités nous écoutent. Donc, dans les jours qui suivent, bientôt, nous allons aller à Bandundu pour essayer un peu de prendre contact avec les autorités et essayer d'échanger avec eux et qu'on mette en place ces mesures dont on évoque ici. Et je vais revenir sur les sauts de filet autorisés. Les sauts de filet, ça c'est la question de Benoît. Pour les sauts de filet, c'est-à-dire, il y a des études qui doivent être faites sur les différents plans d'eau.
Oui.
Sur les différents plans d'eau, faire des études, par exemple quand vous êtes sur le lac Kivu, vous n'allez pas imposer les mêmes dimensions de mailles que quand vous êtes, par exemple, dans le fleuve. Donc, selon le plan d'eau, on fait des études et on arrive à déterminer les mailles minimum en deçà desquelles on ne peut pas descendre.
Est-ce que pour l'instant, il y a beaucoup de sortes de filets utilisés tout de même par des pêcheurs? Parce que vous avez suivi Benoît,
ouais,
qui a parlé des qui que soit, des sambouissas qu'on utilise. C'est des filets reconnus par l'État congolais, je pense bien.
Justement, ce filet-là dont il a fait allusion, c'est qu'on appelle les sambouissas, c'est ça les mauvais filets.
Ah, sambouissas. Ça le mauvais filet.
Donc, vous entendez c'est même le nom, le nom sambouissa.
Donc, ça ramasse tout.
Ça ramasse tout, les mauvais filets.
Donc, c'est des filets prohibés.
C'est des filets prohibés.
On sait les reconnaître facilement. Donc, le paysan, le pêcheur plutôt qui achète ce filet, donc c'est des pêcheurs qui sont en tête. Voilà pourquoi j'y reviens encore sur cette question. Moi, je me dis bien, le filet à autoriser, est-ce qu'on le trouve facilement?
Oui, le filet autorisé se trouve facilement. En fait, le filet autorisé, c'est au niveau des mailles, comme j'étais en train de dire.
Oui.
On dit qu'il y a les mailles, les dimensions des mailles en deçà de desquelles on ne peut pas descendre. Donc ça, c'est ce que autorise la loi. La loi peut vous dire, bon voilà, dans ce plan d'eau ici, vous ne pouvez pas pêcher avec le filet à maille inférieure à 6 cm par exemple, ou inférieure à 4 cm, donc ça dépend. Sur le lac Kivu, par exemple, donc ils vont jusqu'à à 10 mm, puisque là, les espèces qui sont là, ce sont seulement les Ndakala qui sont là, donc là c'est clair.
Donc, le filet comme sambouissa ou qui que soit, c'est des filets fabriqués par eux-mêmes les pêcheurs.
Oui, c'est des filets fabriqués par eux-mêmes les pêcheurs. Donc c'est ils mettent au centre ce qu'on appelle les moustiquaires en question. Donc
oui,
ils mettent, tu vois, des filets à très petites mailles et qui mettent là et qui raclent tout. Tout ce que ça rencontre sur le passage et ça prend tout. Donc c'est cela. Et donc c'est surtout ces questions-là que nous sommes en train de travailler et pour que d'abord qu'il y ait prise de conscience et que au niveau aussi des autorités qu'on prenne des mesures. Et ici nous voulons féliciter déjà puisque nous avons appris qu'au niveau du Katanga, la province du Katanga, il y a là les gouverneurs qui prennent des mesures. Donc à chaque période, il y a une certaine période où cette période-là est censée être une période de reproduction. Le gouverneur prend des arrêtés qui ferme tout le plan d'eau au niveau de la province du Katanga. Et c'est là que nous avons voulu amener les pêcheurs de lac Maïndombe à aller un peu s'inspirer aussi de ce qui se passe au Katanga, puisque là, les témoignages qu'on a, c'est que lorsqu'on réouvre le plan d'eau, on se rend compte que maintenant, les pêcheurs ont des grosses prises de poissons. Donc ça, c'est vraiment important pour la mise en place des mesures de conservation.
Voilà, description du site de reproduction aquatique, quelles sont les conséquences? C'est le sujet abordé en ce moment avec notre invité Freddy Momba qui est chargé des questions des forêts au Sénadep. Vous voulez intervenir par rapport à ce sujet, appelez au 081 890 63 94.
Votre radio vous propose chaque après-midi du lundi au vendredi 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un veste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte. Le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Maurice nous appelle du Dunga, province orientale. Bonjour Maurice.
Okay, merci. Moi c'est Maurice Monsongo Motia. Je remercie la Radio Okapi du jour, monsieur le Freddy. Cette thématique du jour tombe à point nommé parce que moi qui vous parle, je suis ressortissant de Xangani, je suis Guénia. Donc, pour nous, la pêche est innée. Donc, je suis congénitalement pêcheur. Alors, la question du jour me tombe à cœur parce que, tel que nous voyons aujourd'hui sur place ici à Dungu, à plus de 800 kilomètres de Xangani où je suis né, il y a le même phénomène qui se passe dans deux rivières, la rivière Kibali et la rivière Dungu. Alors, il y a rareté des poissons. Moi, je pense que Franck de Vienne ne cesse de nous dire, de nous parler le problème d'hommes qui gangrènent toutes les activités des Congolais en RDC. Donc, le problème de la rareté, la destruction des poissons dans nos différentes rivières, c'est dû au réchauffement climatique. Parce que avant, quand je suis arrivé à Dungu, les poissons, en tout cas, les poissons donnaient le prix. Donc, le prix, quand il y avait beaucoup de poissons sur les marchés, le prix diminuait. Mais avec cette rareté, le prix aussi augmente. Alors, ce que je veux demander à l'invité...
Oui.
Si sur place, nous avons une inspection de pêche et élevage, agriculture, pêche et élevage, alors ce bureau n'existe que des noms. Il y a de ces pêcheurs-là qui ne sont pas pêcheurs, s'aventurent sur les rivières et comme conséquence, il y a disparition, noyade et ainsi de suite. Parce que chez nous, à l'initiation des Guénia à Xangani, quand vous voyez très bien la pêcherie Wagenia à Xangani, à Binakulu, c'est là où on forme les pêcheurs. Il y a toute une initiation. Alors, monsieur l'invité, devant ces brebis galaises, ces tombeurs, soi-disant pêcheurs, qu'est-ce que l'État peut prendre comme décision avant de descendre à la rivière, s'aventurer là-bas? Et de deux, le problème des poissons à main est prohibé. Moi, je pense que tel que j'ai dit un peu plus haut, c'est le problème des hommes. Le problème est d'hommes, mais comme Franck de Vienne ne cesse de nous chanter à la radio Capi. Alors,
merci.
Qu'est-ce que dans ces cas, qu'on peut faire dans ces cas-là, s'il y a rarité et qu'il y a ce suivi aussi des pertes d'hommes dans de différentes rivières. Et au moment où je vous parle, la saison sèche s'annonce déjà où on trouve beaucoup de poissons ici à Dungu. Mais vous allez voir que cette manne qui tombera incessamment va suivre aussi des disparitions de beaucoup de têtes des enfants sur place ici parce qu'ils ne sont pas pêchés, même pas nager, ils ne savent même pas ça.
Merci. Alors, ça, Maurice, merci Maurice, l'invité a bien compris, il va réagir par rapport à vos préoccupations. Merci Maurice d'avoir appelé du Dungu en province orientale. On va se rendre à Kananga, au Kassai occidental, pour retrouver Chris. Bonjour Chris.
Oui, bonjour, ce n'est pas Chris, c'est fils de Kananga.
Voilà, bonjour fils. Allez-y, quelle est votre question?
Bonjour, la radio Kapi, bonjour à l'invité. J'ai bien suivi l'invité. Et il a dit que non, tous les pêcheurs savent les sites productifs des poissons. Mais moi, je ne suis pas sûr. Je voulais un peu demander à l'invité de me dire, y a-t-il combien de sortes de pêcheurs? Et si il y a, par exemple, des sortes de pêcheurs, qu'ils nous disent qui sont ceux-là qui savent les milieux productifs des poissons. Et à ceux qui ne savent pas, quelles sont les mesures prises par l'État pour ceux qui ne savent pas donc les milieux productifs des poissons, je vous remercie.
Merci à vous aussi, Chris, fils, voilà, d'avoir appelé du Kananga dans les Kassai occidentaux, à Bukavu, dans le Sud Kivu. Amani est en ligne. Bonjour, Amani.
Bonjour, Radio Kapi. Bonjour, Massengo. Bonjour à l'invité.
Yes. On vous écoute, Amani.
Donc, j'ai des petites questions à poser à l'invité. Je voulais demander. Que prévoit la loi congolaise concernant, à titre d'exemple, une fois un pêcheur vient d'utiliser des filets maillants qui n'est pas autorisé, il peut subir quelle peine de la loi? Et deuxième question, ici, Marcel Ngombo, ici à Bukavu, vous pouvez constater au niveau de la Kivu, tout près de la société Pharmakina, il y a de l'eau qui quitte dans la société Pharmakina, qui se jette au niveau de la Kivu. Est-ce que ça ne fait pas polluer l'environnement ou baisser la productivité des poissons dans la Kivu? Merci.
Merci Amani depuis Bukavu dans le Sud Kivu. Bruno, vous êtes à Bounia, province orientale. Bonjour Bruno.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité.
Bonjour. On vous écoute Bruno, quelle est votre question?
J'ai une toute petite question monsieur le journaliste.
Oui.
J'aimerais pouvoir l'inviter, lui il est ingénieur agronome. Pourquoi? Quand j'ai suivi les sujets, c'était dans les zones, que ça parlait concernant les zones de reproduction aquatique. Alors, lui, il est ingénieur agronome. Pourquoi est-ce que quand on parle de la reproduction aquatique, ici, chez nous, on s'intéresse plus particulièrement aux poissons et non pas d'autres espèces? Parce qu'il y a d'autres espèces, bien sûr, dans les lacs ou dans l'eau. Est-ce qu'ils ont eu à identifier aussi ces gens, ces espèces autres que le poisson? Voilà ma question.
Merci Bruno, depuis Bounia, Province Orientale. On revient à vous, à Freddy Mumba. Vous avez suivi d'abord Maurice Hack. Pour lui, il faudra un peu assainir les secteurs de la pêche ou peut-être voir comment former les gens à être de vrais pêcheurs. Parce que lui s'est dit, si les gens étaient vraiment des vrais pêcheurs, lui ne pense pas qu'il pourrait aller pêcher même dans les zones de frayeur, dans les zones de reproduction des poissons. Donc il pense bien qu'il faut assainir les milieux. Il a même parlé de l'inspection de l'élevage pêche qui est du côté de Dungu en province orientale, mais qui apparemment ne fait pas son travail. Comment vous réagissez à propos de Maurice?
Oui, donc il a tout à fait raison quand il dit ça. Par rapport aux inspections, ou soit à l'inspection qui existe dans différents endroits, donc il y a un problème à ce niveau-là, évidemment. Donc il fallait vraiment donner du travail à tous les services de l'État qui sont à l'intérieur, qui sont partout, et qui sont censés faire le travail, mais bon, qu'ils ne le font pas. Donc, il faut leur donner le moyen, il faut les motiver pour qu'ils puissent faire correctement le travail et faire la surveillance. Donc, c'est comme je le dis, ça dit que tout part de la réglementation. Quand il y a la réglementation, dans la loi, on va définir qui est pêcheur et qui ne l'est pas. Et comment on met en place des mécanismes pour accéder au plan d'eau. Parce que ce n'est pas n'importe qui va aller, bon, qui se dit qu'il est pêcheur. Donc c'est là qu'il y a le problème. Donc quand il pose ce problème, il a raison. Ça dit qu'on doit contrôler. Et il y a une sorte, par exemple, des permis de pêche qui doit être établi. Ça, c'est pour contrôler l'entrée dans le plan d'eau. On sait qui est entré dans l'eau et au moins ça permet de contrôler la production. Mais ça n'existe pas. On ne fait pas. Donc il y a l'inspection qui devait faire ça, mais qui ne le fait pas. Donc c'est important qu'on puisse redynamiser tous ces services de l'État. Ça, c'est important. Et les mailles prohibées, bon, il y a des filets qui sont prohibés. Comme il dit, c'est vrai, c'est le problème d'hommes. Les gens, bon, ils sont conscients que ça, c'est interdit, mais ils le font quand même. D'un côté, on a des responsabilités, que ce soit du côté des pêcheurs eux-mêmes et du côté aussi donc des services de l'État qui doivent faire observer les règles, tout ça. Donc il y a les parcs qui sont responsabilités, c'est un problème d'hommes, c'est un problème de moyens aussi. Il faut mettre des moyens à la disposition de tous ces fonctionnaires de l'État qui sont censés faire la surveillance.
Alors, vous avez suivi également Fils, il lui a dit, il a posé la question de savoir est-ce qu'il y a combien de sortes de pêcheurs, parce que lui, il estime que on revient presque à la même préoccupation de Maurice, il faut absolument mettre de l'ordre dans les secteurs, vous l'avez même dit.
Ouais.
Voilà. Et pour Amani, qui a beaucoup voulu poser la question de savoir si la loi congolaise prévoit des sanctions par rapport aux pêcheurs qui utilisent les filets prohibés. Il a également demandé si les déchets versés par des entreprises pharmaceutiques ou tout autre peuvent causer aussi du tort pour ce qui est de la pêche, c'est-à-dire par rapport aux zones de frayeur.
Oui, ça c'est tout à fait. Donc toute loi, comme on le dit, toute loi donc doit être assortie des sanctions. Donc une loi qui n'a pas de sanctions, donc c'est une loi qui ne servira à rien. Donc justement, quand il y a la loi, il y a la sanction. Donc pour tous ceux qui sont les récalcitrants qui vont aller à l'encontre de la loi sur la pêche, par exemple, il y a des sanctions qui sont prévues là-bas. Donc si vous êtes appréhendé en train d'exercer des mauvaises pratiques, vous êtes censé, n'est-ce pas, subir aussi donc les règles de la loi. Mais seulement, c'est là le problème aujourd'hui, puisque cela ne se fait pas. Il n'y a pas de sanctions. C'est pour cela que les gens sont encouragés donc à continuer à faire les mauvaises pratiques. Mais les sanctions sont prévues, et ça c'est dans l'ancienne loi, mais que nous, qu'on est en train de réactualiser maintenant. Il y a un projet, comme on a dit, mais sur lequel nous allons essayer de travailler pour pousser à ce que cette loi soit prise. Et concernant les eaux, qui se déverse sur le lac Kivu, c'est tout à fait normal. Donc, nous avons parlé des causes qui sont à la base de la destruction de certaines zones de frayeur, tout ça. Mais ça, c'est une des causes aussi. Quand il y a les eaux usées qui sont déversées, surtout que ce soit les eaux qui proviennent des industries chimiques, c'est tout à fait normal que ces eaux puissent avoir des conséquences sur les espèces qui vivent dans l'eau. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que sous d'autres cieux. Et avant de déverser, n'importe n'importe quelle matière dans un plan d'eau, donc ça doit être traité. On doit donc imposer que cette usine puisse faire un traitement pour que cela ne puisse pas avoir des conséquences sur les autres écosystèmes. Donc ça, c'est tout à fait normal.
Il y avait également Bruno qui appelait de Bounia, Province orientale, qui a dit, est-ce qu'ici on a essayé de recenser, de répertorier
d'autres espèces,
exactement, de poissons, oui.
Bon, ici c'est puisque nous étions en train de parler spécifiquement de poissons, qui est donc dont l'élément principal des pêcheurs, mais à côté de ces espèces, il y a aussi d'autres espèces. Dans le lac ou dans le Maïndombé, dans lequel nous sommes en train de travailler, nous avons aussi d'autres espèces. Il y a les crocodiles qui sont là, il y a les tortues, et qui, et aussi d'ailleurs, sont en voie de disparition aussi. Pour le moment, nous sommes en train de travailler d'abord sur les poissons. Donc, on s'est proposé si on peut aussi mener des études sur les crocodiles, sur les tortues, et voir aussi comment est-ce qu'on peut aller à protéger ces espèces-là. Donc, il y a aussi d'autres espèces à côté de poissons, donc que notre ami ne soucie pas par rapport à cela.
Voilà, on va s'arrêter par là, Freddy Momba. Nous rappelons qu'avec vous, on a parlé de la destruction du site de reproduction aquatique. Quelles sont les conséquences? Il faut rapidement qu'il y ait vraiment une loi qui réglemente les secteurs de la pêche, ça pourra mettre en tout cas de l'ordre pour ce qui est de la protection de ces sites de reproduction aquatique. Nous rappelons que vous êtes ingénieur agronome chargé des questions des forêts au Sénadep, mais aussi chef de projet pilote des co-gestion et conservation des ressources halieutiques du lac Maïndombé. Merci d'avoir été des nôtres.
Je vous remercie aussi. Je remercie VVF Belgique qui nous appuie dans ce projet que nous sommes en train de mener dans le lac Maïndombé.
Voilà, merci.